Je vais passer la parole à M. Jean-François Carenco, notre ministre délégué aux Outre-mer, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous.
Bonjour, avant le discours, je veux dire que parmi les plus beaux pays du monde, il y a la Lozère qui est votre territoire ultramarin par rapport à la Martinique. Monsieur le maire de Fort-de-France, Monsieur le préfet, Monsieur le président de la CCDOM, Madame, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de l'Association des maires de Martinique, Monsieur le Secrétaire Général adjoint de la MR, Mesdames, Messieurs les maires, Présidents de communauté élus, chers amis, d'abord un salut du Président de la République, je vais relever la petite erreur littéraire, Président sanitaire. C'est pas même le Président de la République, c'est surtout le Président de la République. Et surtout le Président de la République, ne l'oublions pas. Il a répondu, Serge Fini le clame partout, positivement et spontanément, à l'appel de Fort-de-France. Donc je vous adresse son salut, ainsi que celui de la Première ministre, du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Plaisir et évidence pour moi d'être aujourd'hui avec vous, 6700 km qui nous séparent, simplement pour être présent à votre 30e congrès des communes et collectivités d'Outre-mer. Arrivé hier soir, je partirai cet après-midi, mais je souhaitais être parmi vous. Utilité et plaisir. Merci en tout cas, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de votre accueil chaleureux d'hier soir lors du dîner amical organisé. Pourquoi être ici? Dans une très belle formule, Michelet écrivait que la France est une personne. Et le visage de cette personne, c'est vous. Surtout Outre-mer. Vous, les élus communaux, qui au quotidien, œuvrer pour répondre aux attentes multiples, nombreuses, contradictoires, récurrentes, nécessaires de vos concitoyens, en tout cas toujours à écouter. Vous êtes le contact direct, palpable, sensible, visible de la puissance publique tous les jours, partout. L'incarnation dans la vie de tous les jours de la loi, de l'administration, de la compréhension des difficultés et de la recherche de solutions. Vous êtes là, en outre, à chaque étape de l'histoire intime des gens. C'est vous qui enregistrez les naissances. C'est vous qui enregistrez les décès. Vous autorisez les permis de construire, célébrez les mariages, les rites républicains, les événements culturels et sportifs. C'est d'abord ça, un maire. Et c'est une prégnance sur l'esprit qui est très très forte. Et puis vous êtes les bâtisseurs, administrateurs des crèches, des écoles, des cantines, des centres sportifs et socioculturels, des services de transport en commun, des maisons de retraite. Vous êtes le premier réceptacle des joies, des colères, des doutes, des frustrations, des tragédies et, je l'espère, des espoirs de nos concitoyens. Et la CDOM, dans mon esprit, c'est une machine d'espoir. C'est pour ça que je voulais être là aussi. En outre, Outre-mer, ce rôle d'élu local, de maire, de conseiller territorial, de conseiller régional, ce rôle de puissance publique du coin de la rue, prend d'autant plus son sens qu'au-delà du préfet, l'administration centrale est loin, très loin, par-delà les mers et les océans. Ainsi, à vous qui êtes proche physiquement de vos administrés, je vous devais cette même proximité, cette même présence, ce même devoir d'écoute et de dialogue qui vous anime au quotidien. Un grand merci républicain, mais aussi personnel pour ce que vous êtes, ce que vous faites. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, m'a aussi demandé de vous transmettre à ce titre ses salutations spécifiques et ses remerciements. Or, malgré tout ça, qui paraît bien, certains de nos concitoyens, de vos compatriotes, peuvent être pris d'un sentiment de déclassement, d'abandon, d'absence de perspective au sein de cet archipel France et de la Guyane, monsieur le sénateur Patient, alors que vous êtes là où les défis du XXIe siècle se concentrent. Là, c'est ma conviction, où s'invente l'avenir de notre pays et de beaucoup de pays du monde. Je voulais donc être là pour évoquer avec vous ma vision pour ce renouveau des Outre-mer, et les moyens financiers que j'essaye de défendre pour y arriver. Et dans cette aventure collective, c'est ma première demande. Nous devons agir ensemble. Le ministre d'Intérieur m'a signé une feuille de route qui décline cette vision, nourrie d'une conviction elle-même alimentée d'expérience. Mon expérience, c'est une vie de préfet jalonnée de responsabilités, de combats, d'amitié ultramarine à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je salue les deux élus de l'archipel qui sont là, en Nouvelle-Calédonie. Merci d'être là, Madame la maire. En Guadeloupe aussi. Ma conviction absolue que je veux faire partager par tous, et notamment l'opinion publique française et l'opinion publique des îles, c'est que l'outre-mer n'est pas une charge, mais une chance pour la France. Et que la France n'est pas une contrainte, mais une chance pour les outre-mer. Pour moi, les territoires d'outre-mer sont là où les défis du XXIe siècle se concentrent. Par leur géographie, par leur histoire, ils sont au croisement des plus grands enjeux contemporains. Le climat, l'énergie, la cohésion sociale, la diplomatie, l'environnement, les migrations. Vous, nous participons, c'est mon souhait, à l'invention du monde. Et c'est difficile. Ma vision, c'est que l'avenir des Outre-mer passe par la création de valeur dans chacun des territoires. De la valeur économique, bien sûr. Toute entreprise en création, toute entreprise en difficulté doit être soutenue. C'est là, mesdames, messieurs les élus, votre devoir premier. Sinon, il n'y aura pas d'avenir pour nos enfants. Création de valeur, mais aussi création de valeur patrimoniale. Et quel plaisir d'être là, pour se fermer, monsieur le maire. Même s'il n'avait pas besoin d'argent pour le restaurer, j'essaierai d'en donner pour montrer que l'État s'intéresse à ce lieu. Création de valeur patrimoniale, de valeur culturelle, de valeur sociale. Et ma méthode, c'est de trouver les voies d'une action publique plus efficace, et pour cela, en lien, ensemble, avec les élus, avec les acteurs de terrain, face aux problèmes du quotidien aussi de nos compatriotes. Pour résumer, mes services n'aimeraient pas moins de plans, plus de concret, dès lors qu'on est d'accord sur la méthode et l'objectif. C'est le sens de l'agenda mis en place à la suite de l'appel de Fort-de-France et de la réunion du 7 septembre à l'Élysée, autour du président de la République et de la Première ministre. Si l'appel a été porté par les présidents des collectivités, c'est aussi dans l'action au quotidien des communes qu'il nous faut nous inscrire ensemble. Vous êtes les premiers concernés. En effet, l'ambition globale de cette feuille de route se décline en divers objectifs. Répondre concrètement aux préoccupations quotidiennes des citoyens pour restaurer la confiance dans l'action publique. Vie chère, eau, pollution, transport, sargasses, on y connaît et on y travaille. Renforcer l'ambition républicaine pour, mais aussi par et grâce aux habitants du territoire. C'est le sujet de la sécurité. Je l'ai dit ce matin à la radio, ça suffit. Ça suffit. Le temps n'est plus, monsieur le préfet. Les moyens vous ont été donnés par le ministre de l'Intérieur, de même qu'ils ont été donnés à Mayotte et en Guyane, où on peut impunément assassiner les territoires d'outre-mer. Il faut que tous ensemble nous le disions. Tous ensemble. Ce n'est pas une histoire de bandes qui se tient entre eux. C'est une histoire de mecs qui assassinent les territoires d'outre-mer. Je le dirai haut et fort. Monsieur le préfet, messieurs les préfets, les moyens vous ont été donnés, à vous de les utiliser le plus fermement possible en liaison avec les élus locaux. Favoriser la création de valeur qui seule permet un avenir à la jeunesse ultramarine. C'est par l'emploi, par l'innovation, par la culture, par la création d'entreprises que les jeunes resteront en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont les trois territoires touchés par les crises démographiques. C'est central, c'est vital. Enfin, agir pour l'adaptation et la différenciation, la responsabilisation des acteurs. C'est l'une des actions majeures qu'il nous faut réaliser après l'appel de Fort-de-France, après le dîner de travail du 7 septembre. Le temps n'est plus à la relation descendante et binivoque avec l'État central. C'est la conviction du président de la République. En tout cas, c'est pour ça qu'il a fait bien. Chaque collectivité doit être plus responsabilisée par et pour elle-même, par l'État. L'État est là pour appuyer, non pas pour dicter, pour renforcer. Chaque collectivité sera donc plus responsable pour répondre aux problèmes différents qui se posent dans chaque territoire. Enfin, favoriser l'insertion et le rayonnement européen et international des territoires dans leur bassin géographique, c'est pas simple, parce que quand on est l'Europe, on a les règles de l'Europe. Et quand on veut, je le dis souvent, faire un petit accord commercial avec Anguille quand on s'appelle Saint-Martin, c'est un monceau de difficultés de traité européen. C'est l'un des sujets que nous avons évoqués avec Serge Chini hier matin à Paris, et c'est pour ça que je me rendrai dès mardi, mercredi peut-être, je ne sais plus, à Bruxelles, à la réunion des RUP autour de la Commission. C'est donc une évidence, mais c'est difficile pour les DROM qui sont au sein de l'Union européenne. Des groupes de travail pour collecter les idées sont en train d'être mis en place dans chaque territoire. Merci d'y participer. Un comité d'orientation tel que la Première ministre, qui était engagée, m'a demandé de le faire, se réunira à Paris, j'espère avant fin novembre ou la première semaine de décembre. Par cette méthode partenariale, axée sur des problèmes concrets, nous avons d'ores et déjà décliné un certain nombre d'initiatives. Moi, j'ai le plaisir à le rappeler, parce que l'État les a menées avec vous. Et après tout, dire ce qui est bien n'est pas un mal. C'est un peu ce qui manque à l'outre-mer, je dois le dire, mais y compris dans mon administration. Hein ? À la Réunion, en juillet, ou à peine arrivé, j'ai accompagné des négociations embourbées de la Convention CAN pour aboutir à la signature d'une convention historique qui augmente jusqu'à 15 euros le coût d'achat de la tonne de canne et planteur. En Guadeloupe, avec la remise sur pied du syndicat mixte de l'eau, que nous avons signé avec le président Francis, le président Chalus et Nosbar, juste avant que je parte, c'était le 8, je crois qu'on a signé ça. On est en marche. Alors on dira, et alors, on se met en marche, il y a les sous, y compris en fonctionnement. Ça me donne d'ailleurs quelques idées pour le syndicalisme des déchets ici. Il faudra essayer de faire des choses. Tout le monde s'est mis ensemble, avec une enveloppe exceptionnelle de 30 millions d'euros budgétés pour accompagner le syndicalisme dans son fonctionnement. S'agissant du fonds du financement des investissements, j'ai pas de soucis. Est-ce qu'on peut de temps en temps se dire, ça va le faire. Dans les Antilles en général, mise en place des services publics anti-sargasses afin de coordonner les efforts de l'État et des collectivités dans la lutte contre ce fléau. J'ai augmenté le cofinancement de 50 à 80% et le programme interministériel de l'État contre les sargasses a lui aussi été augmenté. Les collectivités locales doivent être remerciées, tout est désormais en place. Merci au maire qui joue le jeu, merci à Louis Hinton, à Richelieu, à Serge Chini. À la suite de la tempête Fiona, en Guadeloupe, nous avons obtenu une ouverture de crédit de 10 millions d'euros sur le fonds de secours outre-mer, qui sera complété en tant que de besoin. Sur les liaisons aériennes, moi je vais vous dire qu'il se fait des choses grâce à vous, par vous et avec vous. Donc, ce qui nous manque, c'est de la fierté. Sur les liaisons aériennes, je me suis attelé dès mon arrivée au ministère à accompagner, en dialoguant avec les collectivités locales, les compagnies en difficulté, pour maintenir le niveau de concurrence, maintenir l'emploi, maintenir l'ambition économique. Et je salue ce que nous avons fait pour Air Austral. Je travaille avec Corsair, je travaille avec Air Caraïbes, pour que je travaille avec Air Antilles, pour qu'il y ait de la concurrence, pour qu'on sauve l'emploi, pour qu'on sauve les activités de ces entreprises qui sont les vôtres. Sauver les compagnies, peser sur les prix. Sur ce dernier point, très important, je rencontre au fur et à mesure les compagnies aériennes. Et le budget de l'État 2023 est important, c'est la reprise de la politique à la donne, de la politique pour aider ceux qui en ont besoin sur des sujets qui en ont besoin. Un nouveau directeur général de la donne, après au moins 6 mois, je ne sais pas, je ne regarde pas trop derrière, de vacances de poste, sera désigné dans les 15 jours. Sur la sécurité et la prévention de la délinquance, bien évidemment, je travaille la main dans la main avec Gérald Darmanin. Nous essayons particulièrement dans ce ministère, sur un sujet qui n'est pas collatéral, mais qui est autre, l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. C'est très important. Ou encore dans la prévention de la récidive en matière de lutte contre le narcotrafic. Mais je le redis une fois encore, la fermeté et de mise. Tous ces délinquants doivent être mis hors d'état de nuire. Dans tous les drones, nous avons aussi travaillé avec les préfets à la mise en œuvre d'une remise commerciale sur les carburants, en plus la remise de l'État. Je n'ai pas eu de succès partout sauf à Mayotte. Et puis là, ça avance. Nous travaillons encore aujourd'hui et les préfets n'ont toujours pas d'instruction sur les prix qu'ils doivent arrêter demain. Je vais essayer de faire une liaison avec mon directeur de cabinet, que certains d'entre vous connaissent, pour essayer de lisser tout ça. Pour faire face au retour de l'inflation, nous conclurons la semaine prochaine la démarche Oudinot du pouvoir d'achat, qui combine négociations locales, discussions avec les opérateurs nationaux. L'ambition était d'obtenir des efforts des différentes parties afin de parvenir à des effets sensibles sur les prix, sur un paquet de produits élargi, plus profond, plus présentable. Modération des coûts des produits de grande consommation, c'est l'objectif. Alors, il y a une partie locale, et je veux remercier les collectivités territoriales, régionales, celles qui se sont engagées sur une modération de l'octroi de mer. Je vais y revenir sur l'octroi de mer. Je sais qu'ici, ça se discute encore, ça va aboutir. J'ai une confiance absolue que ça aboutisse, même si c'est juste après. Ce n'est pas un problème de gloriole qui fait quoi le moment venu. Le moment qui compte, c'est quand on voit les prix qui n'augmentent pas, voire qui baissent un petit peu. Les chartes locales ont été signées, notamment à La Réunion, je crois que c'est déjà signé, ou sont en cours de signature. Une restitution nationale est prévue le 23 novembre, avec la présentation des résultats globaux avec les acteurs nationaux de la formation des prix. Et l'important, ce sera la durée des accords et surtout la dynamique qui est lancée avec les grandes surfaces, avec tous les fabricants du prix, avec les collectivités locales. Ces engagements volontaires, c'est ensemble qu'il faut construire. Ça ne sert à rien de dire, il n'y a qu'à propos. Ça ne marche pas longtemps. Ces engagements volontaires des différents acteurs compléteront ainsi les efforts de l'État au profit du pouvoir d'achat. Je rappelle d'ailleurs que sur les carburants, l'État ne perçoit aucune taxe assise sur les carburants. Je rappelle aussi que sur les prix d'énergie, il y a un tarif partagé, régulé, dont je suis très fier. Madame le maire de Saül, vous payez l'électricité modulo quelque chose, le même prix qu'à Langogne. C'est quand même pas le même niveau de réseau et de production. C'est notre honneur d'avoir fait ça. C'est notre honneur. Alors, on va voir ce qui se passe sur les prix de l'énergie. Il y a ceux des tarifs réglementés, et il y a ceux des entreprises. Alors, les petites entreprises sont aux tarifs réglementés, les grosses entreprises sont surtout des syndicats d'eau, de services. On y travaille, on n'a pas encore abouti. Merci en tout cas aux collectivités qui ont décidé de moduler l'octroi de mer ou qui vont le décider sur certains produits. Nous travaillons aussi, et c'est très important, pour la transformation agricole. J'ai signé avec le ministre de l'Agriculture une nouvelle lettre de mission déléguée interministérielle pour assurer ces démarches et surtout assurer des résultats concrets. Je sais que tous les élus y tiennent. Et ils ont raison. Au titre de mon ministère, mais vous partez de tellement loin, nous avons doublé les crédits de l'Odéadom afin de renforcer la production locale. On est passé de 3 à 600, je ne sais rien. Quand même, vu l'ensemble des demandes, si chaque crédit double, ça serait pas mal. En plus des 45 millions du ministère de l'Agriculture et des 45 millions du POSEI. Il nous faut progresser encore pour le futur accord POSEI à partir de 2024. C'est un objectif très fort, objectif aussi très fort d'aligner tout ça avec les PADER que gèrent les collectivités territoriales. Voilà quelques initiatives lancées en moins de 4 mois, grâce à vous. Mais ça a été fait, je dois le dire aussi, grâce à l'appui plein et entier de la Première ministre et du ministre de l'Intérieur. Néanmoins, comme je le disais en introduction, c'est avec les communes que nous pourrons répondre plus encore, plus fortement aux préoccupations du quotidien. Or, nous le savons, en tout cas si vous ne le savez pas, vous me le dites, la situation financière de beaucoup de collectivités d'outre-mer est fortement dégradée. Conscience. Et même conscience, sinon ça serait la ruine de l'âme. C'est le deuxième point que je vais aborder avec vous. Comment redonner des marges d'investissement, parce que c'est ça dont il s'agit, démarche d'investissement pour assurer les services publics locaux et les investissements qu'attendent vos concitoyens. Comment ramener les délais de paiement des entreprises à 30 jours comme le voudrait la loi et comme l'exige la bonne santé économique des entreprises auxquelles on demande un effort de créer des emplois. Si les communes bénéficient outre-mer de recettes importantes et dynamiques, puisqu'on a rattrapé 2018 après les crises grâce à l'apport de la fiscalité indirecte comme l'octroi de mer, elles ont aussi des dépenses structurellement supérieures aux communes métropolitaines, il faut le dire, le redire simplement. Cela s'explique notamment par des contraintes géographiques, des risques naturels, des distances, du climat, mais aussi également avec une démographie particulière, et c'est les mêmes problèmes si la démographie est galopante ou s'il y a un vieillissement et un appauvrissement de la démographie. Ça crée des problèmes dans les deux cas opposés. Ces coûts supplémentaires sont également liés aux handicaps sociaux auxquels vous devez faire face, avec une précarité, un chômage élevé, aux contraintes juridiques liées à la surrémunération. De plus, les communes des Drôme ont subi pendant longtemps un écart défavorable en matière de dotation par rapport aux communes de métropole. Pourquoi ne pas le dire simplement ? En outre, la contribution au redressement des finances publiques appliquée entre 2014 et 2017 a aggravé la situation financière de nombre des communes ultramarines. Ici, l'État a été fautif et le président de la République a pris le problème à bras-le-corps dès 2017. En effet, et nous devons le dire et le reconnaître, nous dire les choses, les sur-effectifs dans certaines collectivités sont une réalité liée notamment au traitement social du chômage. Si nous bien mal, c'est comme ça. De même, certaines fragilités de gestion, disons-nous-le aussi, honnêtement, n'ont pas forcément aidé à résorber ces déficits structurels. Ainsi, nous avons tous notre part de responsabilité ensemble. La question est comment maintenant aller de l'avant ? Car cette situation est triplement néfaste. Les collectivités peinent à répondre aux attentes des habitants en matière de services publics alors que les besoins sont immenses. Les retards de paiement pénalisent le tissu économique des PME et le traitement même des agents communaux important. Mon action dans ce domaine s'inscrit dans celle du président de la République avec l'objectif, comme dirait le rapport Passant-Cazeneuve, d'un accompagnement en responsabilité. Nous devons pour cela, un, rééquilibrer les dépenses de fonctionnement pour, c'est le deuxième point, retrouver des marges d'investissement. Dans les deux cas, je souhaite être à vos côtés, non pas en cherchant à dicter de Paris un destin qui n'appartient qu'à vous, mais dans un accompagnement de vos objectifs et une nouvelle formule de contractualisation. C'est la volonté forte du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales par ailleurs. Sur le fonctionnement, nous pourrons nous réjouir de l'achèvement en 2023 du rattrapage de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer, la fameuse DACOM, conformément à l'engagement qu'avait pris le président de la République en 2016. 150 millions d'euros, c'est quand même beaucoup. Les collectivités ultramarines profiteront aussi en 2023 de la progression nationale de la DGF, plus 300 millions d'euros qui augmentera la composante forfaitaire de leur dotation. Mais le soutien aux collectivités locales est également l'une des dépenses principales de mon ministère. Il représentait 205 millions d'euros en 2022. Il sera en augmentation, et je me suis battu pour cela, vous vous en doutez, madame la sénatrice, en augmentation de 32% en 2023 à hauteur de 270 millions d'euros au lieu de 205. Malgré ces bonnes nouvelles, nous nous trouvons toujours dans une conjoncture défavorable liée à l'inflation mondiale que nous connaissons et à nos besoins. Sur l'inflation, moi qui ai fait des études au moins jusqu'en terminale de mathématiques, je m'oppose à l'inflation exponentielle. L'inflation exponentielle, c'est quand la dérivée seconde est positive. Galopante, trottante, moi qui ai connu 17% dans ma jeunesse, il ne faut pas affoler les gens. Il y a une inflation, c'est très difficile à combattre, très difficile à compenser, mais attention, n'affolons pas les gens. Tout le monde sait qu'une inflation à 4%, avec une croissance à 4%, c'est l'idéal pour résorber la dette. Et je ne suis pas sûr que l'inflation à 1, 0 soit meilleure que 4. Mais en tout cas, à 7, c'est pas bien, surtout quand ça touche surtout les produits de nécessité, la première nécessité, et surtout des territoires où la pauvreté est plus forte qu'en métropole, donc en France hexagonale. Donc c'est pour ça qu'il faut combattre. Les dépenses des collectivités augmentent mécaniquement, combinées également à la hausse des points d'indice. Réjouissons-nous cependant de la création en août 2022 d'un filet de sécurité par lequel l'État compensera sur la base des comptes définitifs de 2022 la moitié de ses surcoûts pour les collectivités dont la situation se dégrade. Avec la difficulté, c'est que celles des collectivités qui ont pris en main leur avenir et dont la situation s'améliore, on leur met un temps par rien. Ça, c'est juste pas possible. En outre, je l'ai dit, il faut reconnaître que les ressources d'octroi de mer sont dynamiques, plus 11% en 2022, s'ajoutant à une hausse de 15% en 2021, qui nous permet de rattraper la catastrophe de 2019 et de 2020, et d'arriver au niveau de 2018. Les surcoûts de la conjoncture me semblent couverts par ces deux sujets, je dirais de la conjoncture immédiate. Pour accompagner les collectivités en difficulté, qui restent en difficulté, n'étaient pas là, donc je le dis avec plaisir, les contrats de redressement outre-mer ont été inventés et sont vraiment un outil gagnant-gagnant auquel je crois. Ils permettent aujourd'hui à 7 communes volontaires de bénéficier d'un accompagnement inédit pour se remettre à flot. D'ici quelques jours, elles seront 9. Je pense qu'on pourra en 2023 en rajouter quelques-unes. Voir des syndicats, qui ont mon regard sur l'eau et les ordures ménagères quelque part dans la carrière. Et donc je veux saluer les maires qui sont engagés dans cette démarche avec détermination et que l'État accompagne en termes financiers d'assistance technique. Dans le dialogue avec l'Assemblée nationale, peut-être qu'on aura plus avec le Sénat, nous avons ajouté 30 millions d'euros supplémentaires pour les quorums en 2023, dont, je l'ai dit, 20 millions fléchés pour le SMEAG, s'ajoutant aux 10 millions déjà budgétés pour parvenir au SMEAG aux 30 millions dont je vous parlais tout à l'heure, et 10 millions sur les quorums en plus. Nous pourrons donc amplifier ce dispositif qui, je le crois, fait largement consensus. J'en profite à ce stade pour saluer la commune du Port à La Réunion qui s'est engagée dans le dispositif territoire zéro chômeur. Mesdames, Messieurs les maires, regardez ce que c'est. Regardez ce que ça peut apporter. Je le salue pour qu'il fasse école. Vous pouvez vous engager sur ce dispositif. Tous ces territoires, toutes ces mesures doivent, me semble-t-il, nous permettre de préparer l'avenir, investir dans le développement des territoires. Le combat n'est jamais fini. Vous n'êtes pas satisfait, moi non plus. Mais simplement, je dis, combattons. En matière d'investissement, le fonds exceptionnel d'investissement outre-mer, le fameux FEI, a été reconduit à 110 millions d'euros. Je rappelle que le FEI représente 8,5% des aides à l'investissement public outre-mer hors plan de relance. Il est surtout un outil complémentaire indispensable grâce à son effet levier sur les autres financements. Dans ce cadre, une petite mesurette, mais qui me plaît beaucoup, c'est la capacité pour le ministre, au cas par cas, sur proposition du préfet, de porter le taux de subvention à 100% au lieu de 80% pour les communes en situation financière dégradée et qui ont des besoins essentiels. Ça me paraît très important qu'on puisse faire ça, qu'il n'y ait pas les exclus du système. En outre, comme demandé par les élus et rappelé dans le rapport Patient Ropritch, j'ai ouvert le dépôt de dossier pour 2023 un mois plus tôt que les années précédentes, ça ne semble rien. Mais ça fait partie des petits efforts collectifs que nous devons faire afin de laisser plus de temps aux communes pour se préparer. Je souhaite là encore que l'AFL 2023 se concentre sur les problèmes concrets du quotidien. Et si vous voulez savoir comment ça se décide, si le dossier est bon, c'est moi qui le décide. C'est aussi simple que ça pour essayer de faire converger tout cela. Sur le sujet des dépenses, il vous faut présenter des projets mûrs et sûrs afin de pouvoir décaisser les fonds rapidement. Les restes à payer du FEI sont supérieurs à 200 millions d'euros. C'est trop élevé. Et je précise que quand une dépense a été engagée sur le FEI, si la dépense ne se réalise pas, je ne récupère pas l'autorisation d'engagement, c'est perdu. Un maire qui dit « Ah, je le propose quand même, je verrai si j'y arrive », c'est à toutes les communautés d'outre-mer qui disent. Hein, c'est comme ça. Par ailleurs, la création du fonds vert doté de 2 milliards d'euros pour financer les investissements des collectivités en matière de transition écologique est une formidable opportunité, et je vous le dis, une formidable cible pour nos combats de demain. On va y arriver. Je serai là évidemment pour aider les collectivités ultramarines à pleinement mobiliser ce dispositif. Nous allons essayer de nous voir attribuer une part importante du fonds vert. La contribution de vos communes à la défense du climat est essentielle à la France, elle sera ainsi reconnue. Je précise que j'ai lancé l'idée, suite à une demande du président de la République, de faire un document sur environnement et collectivités locales ultramarines. C'est à la fois un effort considérable que demander aux collectivités ultramarines. En Guyane, pas de poisson, pas de pétrole, pas de bois, pas d'or, pour le bien de l'humanité, pour le bien de la France, c'est sûr. Mais ça gêne un peu aux entournures de temps en temps quelques projets de la Guyane. Sur la pêche, j'en ai dit un mot tout à l'heure, hein, on va aller se battre pour avoir l'autorisation de réparer la flotte, hein, de tout ça, parce qu'on nous dit qu'il faut défendre les poissons. Bon. Donc les Outre-mer contribuent, vous l'avez dit, Monsieur le Président, largement à la défense de la planète. Ils contribuent largement à l'image de la France, sans parler de la Polynésie et de son étendue gigantesque. Hein, et d'autres encore. Et puis après, ils ont des problèmes particuliers, l'isthme de Saint-Pierre, l'isthme d'Ouvéa. Par exemple, est-ce que ce n'est pas partie des choses qu'il nous faut faire ensemble? Et donc on va essayer, après on n'est pas très bon sur l'utilisation du pétrole, du charbon, il faut le dire, hein, on a des efforts à faire. Donc on va essayer de monter un petit dossier partagé sur Outre-mer et climatologie et écologie, c'est pas, en tout cas défense de la planète, vous êtes au premier rang. Et puis il y a les CCT qui sont prolongés d'un an. C'est un peu compliqué, puisque la Première ministre a été d'accord sur ma proposition de prolonger d'un an les anciens CCT. Et donc, qu'est-ce qui se passe en 2023? En 2023, on a obtenu une dotation forfaitaire égale à la moyenne des années précédentes, 500 millions. Il faut aller assez vite. Mon collaborateur qui est là, mais vous connaissez ici, Guillaume Vaille est là. Les préfets ont reçu des instructions pour très rapidement engager ces 500 millions d'euros. Et puis après, on est sur 2024-2027. Toutes ces sommes sont là en 2023. Elles peuvent paraître un peu ronflantes sur le papier. Elles sont plus importantes, si vous les cumulez tous, que ce que vous croyez. Encore faut-il que nous arrivions à les dépenser tous ensemble. Je connais le chemin de croix, que c'est de monter un grand projet, de le mener jusqu'au bout, surtout pour des communes en manque d'ingénierie ou pour des communes dont on nous dit qu'il faut absolument préserver tout et toucher à rien. J'ai obtenu la pérennisation du fonds Outre-mer doté de 10 millions d'euros par an pour mettre à disposition des collectivités locales l'expertise technique qui peut leur manquer. Nous allons essayer d'aller plus loin, travailler avec l'AFD pour amplifier et accélérer la mise à disposition d'assistants techniques pré-localisés et à utiliser sans appel d'offres. Sinon, on n'y arrivera pas, on perd encore un an. C'est un projet que je souhaite voir aboutir. J'ai parlé longuement, mais je voulais vous parler en vrai. Si entre nous, on ne se parle pas en vrai, alors nous sommes tous morts ensemble. Et vu mon âge, c'est plus dangereux pour vous que pour moi. Pour conclure, trop long propos, mais trop court encore pour tout ce que j'aurais voulu vous dire. Je souhaite tracer rapidement quelques perspectives. Rassurez-vous, on arrive au bout. Prolongeant la demande du président de la République et de la Première ministre formulée lors de la réunion du 7 septembre après l'appel de Fort-de-France, nous allons, dans les mois qui viennent, proposer à chaque territoire de consolider et partager sa feuille de route économique pour les 10 ans à venir. Cette feuille de route économique, qui sera une espèce d'armoire-boule, de boussole, la vision de l'avenir, permettra ensuite de décliner des priorités pour les prochains contrats de plan, dans lesquels figureront la liste des investissements, de tous les investissements indispensables et leur modalité de financement pour les 30 ans qui viennent. Pas que tout le monde, mais au faux, et on regarde. Je souhaite que ces contrats de plan permettent ainsi une meilleure mobilisation des crédits de France 2030, des fonds européens. Le travail des 6 à 8 mois qui vient est donc essentiel. Un mot aussi sur l'octroi de mer, dont on entend trop de choses trop vite, sur lesquelles on entend trop de choses trop vite. La refonte est un chantier que le président de la République m'a demandé d'ouvrir lors de sa campagne. Et je pense, et je suis sûr que vous pensez aussi qu'il a raison. L'objectif, c'est quoi? Finance des collectivités locales, transformation de l'économie afin de la rendre créatrice de valeur et respectueuse de l'environnement. C'est les trois points de l'équation. Et une équation à trois inconnues, comme vous le savez, c'est toujours difficile. Tous ceux qui pensent qu'il n'y en a que deux, ils se gourrent. Cette refonte me semble devoir être un moyen pour conforter les ressources des collectivités locales, dont vous le savez évidemment, la première constitue une ressource essentielle, mais aussi de maintenir, de mieux orienter la production locale au profit d'une action écologique, sans que cela se fasse au détriment des consommateurs les plus fragiles, et aussi pour permettre de développer des entreprises qui seront un petit peu protégées. C'est bien une équation à trois inconnues. Par ces implications très structurantes, cette refonte ne peut donc être envisagée qu'après une concertation approfondie, tant avec les élus qu'avec les acteurs économiques. Énergie, fiscalité, responsabilité fiscale, recettes des collectivités, tout cela est lié. Tout cela, c'est le sujet. Qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura plus que des voitures électriques? Quand tu as la réflexe sur les recettes, sur l'essence. C'est ensemble. Tout ça, c'est ensemble. On va essayer de le faire. Moi, je ne sais rien. J'essaie simplement de vous apporter mon énergie. C'est l'ambition que je donne à tous les services. On avait ce matin réunion avec les services du préfet ici à la préfecture. L'État, dès lors qu'on reste dans le cadre des lois, a changé un peu. C'est tout le sujet qui se déroule, dont je ne voulais pas parler ici, hein, qui se déroule suite à l'appel de Fort-de-France et de la réunion du 7 septembre, mais dans ce cadre des lois et règlements qui nous font un peu changer, dans le cadre des règlements de Bruxelles, qui à la fois nous aident parce qu'ils nous donnent des choses, mais qui nous oppriment aussi de temps en temps. C'est pour ça que je l'ai dit à Bruxelles après-demain. Et dans ce cadre-là, qu'il nous faut travailler. Et moi, je vous dis, j'ai une totale confiance. C'est beaucoup de boulot, mais chaque fois que je vois un maire, je me dis dans le... Donc on va le réussir. Non, je suis ici dans le carbé, donc je ne peux pas conclure ce discours trop long sans rendre hommage à Aimé Césaire. Je souhaite convoquer non pas son analyse majestueuse de la négritude, parfois oubliée. Imaginez que Césaire aujourd'hui parle de négritude. Je pense qu'il serait allumé par deux, trois personnes. Comme quoi les mots ont un sens. Une profondeur des mots. Majestueuse analyse de la négritude, de la colonisation. Ça serait trop ambitieux pour moi et trop difficile. Et son approche humble, que certains critiquaient comme une approche de petit maire. Mais une action consacrée à l'humanisme qui s'intéresse au quotidien de ses semblables. Je cite Aimé Césaire, et je pense à vous. Il y a de la grandeur dans la petitesse, dans les petites choses. Dans la moindre chose, il y a de la grandeur, à condition qu'à l'horizon, il y ait un but. Je pense que c'est la feuille de route qui doit s'appliquer à notre action collective. Et je suis fier pour la littérature, pour la Martinique, pour la République, que ce soit une citation d'Aimé Césaire. Voilà, ma feuille de route, faire simple et concret en faveur du renouveau des Outre-mer. Moi, je sais pouvoir compter sur vous pour que nos îles et la Guyane, pour que la République, pour que la France vivent ensemble pour l'avenir de leurs concitoyens. Merci à vous.
This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.